Alors, donc, bienvenue à tous à nouveau à cette séance de questions et réponses. Donc, j'ai reçu quatre questions. Donc, je vais essayer d'y répondre. La première question, elle est de Karma Norbu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer la différence entre Chöni, le Dharmata, Chöku, Dharmakaya et Chöyin Dharmadhatu? Ça, c'était la première question. Et donc, la réponse de Rinpoche, c'est que Chöni Dharmata, en fait, en tibétain, quand vous dites Chöni, ça veut dire la nature de quelque chose. En fait, quand on veut parler de la nature d'une chose, habituellement, on dit que c'est son chöni. Mais quand on parle du dharmata, je pense que la plupart du temps, on fait référence à la nature ultime de tous les phénomènes. C'est ça le dharmata. En ce qui concerne le dharmadhatu, c'est en un sens, c'est un peu la même chose que le dharmata, mais en général, quand on parle du dharmadhatu, on fait aussi référence à la sagesse du dharmadhatu, c'est-à-dire. Donc ça fait aussi référence à la nature de toute chose, mais plutôt selon la perspective. En fait, le yin, c'est l'espace ou la sphère au sein de laquelle toute chose est inclue. Donc tu dis yin. C'est pourquoi, bien sûr, c'est similaire à la nature ultime de chaque chose, mais quand on parle de la sagesse de cela, alors on fait référence à la sagesse qui devient consciente de la nature de la réalité ultime. Donc c'est quelque chose d'un peu comme ça. Et souvent aussi, on peut dire que on en fait un usage spécifiquement philosophique, donc et avec certaines connotations aussi. Donc en fait, c'est un mot qui peut vouloir dire des choses légèrement différentes selon le niveau et l'école philosophique auquel on se place. Et enfin, le Dharmakaya, donc dans ce mot-là, bon, on a déjà évoqué à plusieurs reprises le mot Dharma. En lui-même, il a beaucoup de significations en sanskrit. Il a 10 significations en sanskrit, le mot Dharma. Et je ne pense pas que je vais donner les 10 significations du mot dharma. Parce que dharma, ça recouvre tout ce qui peut être sujet de connaissance. tout ce que l'on peut concevoir, tout ce que l'on peut connaître. Et donc, et dharma peut aussi renvoyer, peut aussi signifier le chemin. Dharma, ça peut aussi vouloir dire la libération. Et puis, dharma, ça peut aussi vouloir dire tout ce qui peut être l'objet de l'esprit. Et puis, ça peut aussi vouloir dire les livres, le dharma des écritures. Ça peut aussi renvoyer à la culture. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose qui est sur le point d'arriver, qui peut se produire. Ça peut aussi renvoyer à une religion. Donc, en fait, le mot dharma, il est très polysémique. Et donc, dans ce contexte de dharmakaya, en fait, ici, ce sont toutes les qualités positives, toutes les qualités ultimes. Et ku, c'est le mot, c'est ce qui traduit kaya en sanskrit, et c'est le corps. Et donc, dans ce cas particulier, on utilise le mot corps parce que c'est pour dire que c'est l'assemblage, la collection de toutes les qualités ultimes qui se réunissent. Comme si on pourrait dire une sorte de personnification. C'est pour ça qu'on dit chokku. Donc, et c'est ce chokku, en fait, on ne peut l'employer que pour quelqu'un qui a une expérience pleinement éveillée. Et en général, le chokku, en fait, on le définit en association avec deux autres, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Et parfois, des fois, il y a deux corps, le Dharmakaya et le Rupakaya. Parfois, il y a trois corps. Ça peut être développé. Le Rupakaya, on peut le présenter en deux aspects. Donc, il y aurait le Dharmakaya, et puis dans le Rupakaya, il y aurait le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Et donc, après, il existe aussi une présentation en 4 kayas, en 5 kayas. Donc, le Dharmakaya, c'est la personnification ou la collection, la réunion de toutes les qualités positives. Et c'est ça le Dharmakaya. Et en général, quand on dit Dharmakaya, en fait, ça correspond à comment un Bouddha ou une personne pleinement éveillée expérimente, comment un être pleinement éveillé. En fait, c'est l'esprit d'un être pleinement éveillé, c'est ça le Dharmakaya. Et le Sambhogakaya, c'est comment un être pleinement éveillé, comment un Bouddha pleinement éveillé voit ou expérimente, perçoit le monde autour de lui. Et le Nirmanakaya, c'est comment est-ce que ça décrit comment est-ce qu'un Bouddha pleinement éveillé se manifeste et comment il est vu par tous les autres êtres qui ont la capacité de le voir. Donc c'est ça les trois kayas et c'est ça le Dharmakaya. Puis la deuxième question, elle est posée par Max et elle dit: S'il vous plaît, pourriez-vous parler des terres pures et les champs de Bouddha? Comment est-ce que les bodhisattvas créent des champs purs? Est-ce que ce monde dans lequel nous nous trouvons est le champ de Bouddha du Bouddha Shakyamuni? Qu'en est-il du royaume de Shambhala? Est-ce que c'est comme une terre pure cachée qui serait dans notre monde? Ou quelle en est la signification? On dirait que les choses dégénèrent en ce monde, mais est-il peut-être possible de purifier notre monde, peut-être à travers les prières, par les aspirations et par l'accumulation de mérites? Donc ces choses, Thierry Poche, je ne sais pas si c'est une question vraiment importante ou non, mais il existe des terres pures de différentes sortes et ça a été expliqué dans les textes bouddhistes. Et quand on parle par exemple de la terre pure d'Amitabha ou ce genre de choses, en fait, il y a des terres pures de différents Bouddhas, de différents Bodhisattvas, etc. Et la terre pure d'Amitabha, elle est censée être une expérience très pure. Et en fait, elle ne consiste pas en un pays dans lequel on pourrait se rendre. En fait, terre pure, ça, c'est une terre pure, c'est un état de notre esprit. Mais en fait, notre état d'esprit, c'est aussi un champ d'expérience. Et c'est pourquoi on dit que c'est une sorte de pays, de territoire, de domaine. Donc ça, c'est pour ce qui est des terres pures. Donc dans lesquelles les êtres peuvent prendre naissance, ou si quelqu'un est très pur, il peut s'y rendre dès maintenant. Les terres pures sont des champs de Bouddha, mais quand on parle des champs de Bouddha, parfois il y a l'idée de cultiver ou de créer un champ de Bouddha. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui se produit quand un grand bodhisattva atteint l'éveil, ou pendant les dernières étapes de son cheminement en tant que bodhisattva, à ces moments-là, il établit beaucoup de connexions avec toutes sortes d'êtres et il fait en sorte que ces êtres mûrissent suffisamment afin qu'ils puissent voir le Bouddha. Et c'est ça qui crée un champ de Bouddha. Et quand ce champ de Bouddha est complètement créé, alors un Bouddha apparaît. En fait, le Bouddha, il est tout le temps là, mais simplement, quand le champ apparaît, ça veut dire qu'il apparaît à tous les gens qui sont dans ce champ. Donc, quelque part, ils y ont accès. Et c'est pourquoi ce monde, et en particulier à l'époque du Bouddha, mais encore maintenant, puisque le Dharma est toujours là, on dit que ce monde, c'est le champ de Bouddha, du Bouddha Shakyamuni. Oui, donc on peut le dire comme ça. En ce qui concerne Shambhala, c'est pas du même degré de pureté. C'est pas aussi pur que, par exemple, la terre pure d'Amitabha. En fait, c'est censé être, en effet, un royaume caché. Bien sûr, ça désigne. Il y a aussi différents niveaux de Shambhala. Le Shambhala ultime, c'est plus peut-être dans notre esprit, mais on dit qu'il existe en effet un royaume de Shambhala quelque part dans ce monde, dans lequel on dit qu'à un certain moment, le roi de Shambhala se manifestera et remettra toute la terre en ordre. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée. Je ne sais pas pour ma part quand est-ce que ça va se produire. Je crois que différents érudits ont différentes opinions sur la date à laquelle tout ça pourrait se produire. le fait que, quand on dit le monde dégénère, ça veut dire que, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que les gens dégénèrent. Et ça veut dire que les gens deviennent de plus en plus avides, égoïstes. Les émotions négatives des gens deviennent plus fortes, plus crues, plus à vif. Quand elles deviennent plus prédominantes, c'est ça qu'on veut dire quand on dit, quand on parle de temps dégénéré. En fait, au niveau du temps, il n'y a rien qui se passe, et au niveau des gens qui se passe quelque chose. Mais à cause de ça, on crée des problèmes pour nous-mêmes et on crée les guerres, les famines, les maladies, toutes sortes de choses. C'est ça qu'on appelle les temps dégénérés. Et oui, il est dit dans les sutras, par exemple, que si tous les êtres dans le monde, si tous les êtres humains dans le monde, si on se réunissait, si on s'améliorait, si nous agissions mieux, et si nous observions, par exemple, les cinq préceptes ou quelque chose comme ça, alors nous pourrions créer un âge d'or à nouveau. Donc c'est ça l'idée. Et c'est pourquoi ça devient si important d'essayer de développer la compassion, la sagesse, etc. Et en fait, Dhirin Poche, je pense qu'il n'y avait que deux questions. Donc il n'y avait que deux questions, mais la troisième question, c'est une question que j'ai reçue directement. Et cette question m'a été envoyée par Jean. Quelle réponse donneriez-vous quand quelqu'un ressent des moments de solitude? C'est ça la question. Irine Poche dit, eh bien, je pense que la solitude est une difficulté à laquelle beaucoup de personnes sont confrontées, peut-être encore plus particulièrement en ce moment, à cause de la pandémie. On ne peut pas tellement communiquer, ou en tout cas on ne peut pas se voir, on peut pas tellement, on ne peut pas voyager autant que d'habitude. Et puis tout particulièrement pour les personnes qui sont malades, c'est encore pire parce qu'elles ne peuvent voir personne. Mais c'est aussi un problème en général dans le monde, et tout particulièrement pour les personnes âgées, parce que nous, êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Nous aimons avoir des amis, une famille, des gens qui nous aiment autour de nous, et nous avons besoin de beaucoup d'amour. Et si c'est présent, alors nous sommes heureux. Mais nous sommes aussi un peu du genre qui fait que si nous avons trop de gens autour de nous, alors nous avons besoin d'intimité, de solitude. Et puis alors que quand nous sommes seuls, nous aimerions bien être entourés et nous nous sentons seuls. Il y a une chose qui est importante, je pense. D'abord, la chose la plus importante, c'est que c'est au niveau de l'attitude. Je pense que la chose la plus importante que nous avons à comprendre, c'est la suivante, c'est que nous devrions essayer de profiter au mieux de ce qui est déjà là et de ce qui est déjà en train de se produire. Si nous avons des amis, une famille, des gens autour de nous, nous devrions nous dire que c'est déjà fabuleux, magnifique, je ne suis pas seul, et donc je devrais essayer de profiter de cette compagnie en étant un peu plus patient, un peu plus bon, un peu plus aimant, de sorte que nous puissions profiter de la compagnie les uns des autres. Et si nous sommes seuls, au lieu de se dire « Mon Dieu, c'est si terrible », nous devrions essayer de tirer avantage de cela aussi. Car quand nous sommes seuls, ça veut dire que nous avons beaucoup de temps pour nous, que nous pouvons faire exactement tout ce que nous voulons faire, que nous avons beaucoup de liberté, et que donc nous devrions essayer d'en faire un avantage de cette situation, d'essayer d'utiliser cette situation, d'en faire une opportunité. Par exemple, nous pouvons méditer, nous pouvons pratiquer le dharma, ou si nous ne sommes pas si bons que ça en méditation, nous pouvons lire des livres. Les livres sont, on dit que ce sont les meilleurs des amis que l'on puisse avoir. On peut les lire et on peut totalement s'y abandonner. Il y a tant de livres intéressants sur toutes sortes de choses. Et donc, je pense que l'une des meilleures façons de gérer la solitude, c'est d'essayer de lire des livres. Mais il s'agit aussi beaucoup de notre attitude. Lorsque nous sommes nés, nous ne connaissions personne en arrivant. Même notre mère, nous ne l'avions jamais rencontrée. Et donc, lorsque nous sommes arrivés, nous étions seuls. Et puis, dans la vie, parfois nous sommes très entourés, parfois non. Et parfois, les gens changent aussi. Donc, et nous traversons toutes ces expériences seuls. Nous ne pouvons pas totalement partager notre vie avec les gens. Les gens autour de nous, ils évoluent, ils changent, c'est pas toujours les mêmes. Et donc, on peut pas avoir quelqu'un qui serait en permanence tout le temps avec nous et qui partagerait toutes nos expériences. On a des bons moments, des moments tristes, des moments mauvais, des moments heureux. On a tout ça. Et puis, quand on tombe malade, quand on vieillit, personne ne peut vraiment nous accompagner. Bien sûr, il peut y avoir des gens autour de nous, mais c'est nous qui devons endurer ce processus. Et c'est pareil quand on meurt. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important de comprendre. C'est qu'il nous faut apprendre comment être seul. Sans pour autant se sentir abandonné ou seul, mais apprendre à vivre cette expérience de solitude en comprenant que c'est la nature même de notre voyage et d'être un voyage en solitaire. Et quand on a cette compréhension, eh ben, il faut faire le mieux qu'on peut dans cette situation. Si je suis seul, très bien. Si j'ai des gens autour de moi, c'est également très bien. Et quand on a cette compréhension, alors je pense que l'on devient un peu, en quelque sorte, préparé à la solitude, à être seul. Et alors je pense qu'on a moins de sentiments de solitude parce que, en fait, tout ça, c'est beaucoup une question des attentes qu'on a. Si, par exemple, on s'attend à ce que les gens soient très serviables, aidants, bons, si on attend à ce que ce soit comme ça tout le temps, alors c'est quelque chose que vous ne trouverez jamais. Parce que les gens ne pourront jamais se conformer à vos attentes. Mais si vos attentes ne sont pas trop élevées, alors n'importe qui, un ami, un membre de votre famille, s'il est un tout petit peu bon, vous en serez très heureux et vous l'apprécierez énormément. Et donc, je pense qu'il est très important et essentiel d'essayer de réduire nos attentes et d'être un peu préparé à la solitude. Et alors, si on est seul, en fait, on peut tout à fait être seul sans éprouver le sentiment de solitude. Parfois, on peut tout à fait se sentir seul, même avec beaucoup de gens autour de soi. Parce que c'est aussi lié à combien on a confiance dans les gens, combien on se sent proche d'eux, combien on est ouvert aux autres, et ce genre de choses. Donc, et je pense que j'en ai déjà parlé auparavant, l'amitié, c'est pas quelque chose où juste il suffit de s'asseoir et les gens arrivent et ils deviennent vos amis. En fait, pour avoir des amis, c'est à nous de faire le premier pas, d'aider, d'être bon, d'être compatissant, et sans avoir trop d'attentes. Et alors, oui, l'amitié peut apparaître. Je pense que c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, voilà, je pense que j'ai dit ce que je savais. Je ne sais pas si ça peut aider, mais c'est ce que je pense. Mais vous savez, ma mère, quand mon père est mort et plus tard mon oncle, elle était seule dans sa chambre. Et on se disait peut-être que elle se sent seule, peut-être qu'on devrait venir dormir avec toi et tout ça, pour que tu te sentes moins seule. Et elle disait non, je me sens pas seule, parce que en fait, elle était toujours très occupée. Bien sûr, on a une grande famille. Mais elle disait toujours qu'il faudrait qu'elle meure seule après tout ça, et que donc, voilà, c'était... elle acceptait, et elle prenait sa vie en main, et elle voulait pas que quelqu'un s'embarrasse d'elle. Et donc, quand elle descendait pour le déjeuner ou pour le dîner, elle était en public, mais sinon, elle était dans sa chambre, et elle priait, et elle pratiquait sans cesse. Et en fait, elle avait à peine le temps pour nous, juste pendant les repas ou le thé. Mais sinon, elle disait qu'elle n'avait pas le temps parce qu'elle était toujours très occupée. Je pense que vous pouvez devenir aussi un peu comme ça. Et en fait, elle, ça l'a rendue très heureuse. Elle était toujours dans un état d'esprit très... satisfait, parce qu'elle avait le sentiment qu'elle faisait quelque chose qui avait du sens, qui était utile, pas seulement pour elle, mais également pour sa famille et toutes les personnes autour d'elle. Et donc, elle avait le sentiment que elle accumulait beaucoup de choses, des statues de Tara, des choses comme ça, et puis elle les envoyait pour sa santé le karma, pas pour le Dalai Lama, ce genre de choses. Et donc c'est quelque chose, je crois, sur quoi on doit travailler, parce que chacun de nous aura à vieillir et aura au final moins de gens autour de lui, et donc il nous faut apprendre à gérer cette solitude. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, et s'il y a d'autres questions par des gens qui sont présents, alors elles sont les bienvenues. Donc, on a une première question de Annie. Bonjour Annie, dit Rinpoche, comment allez-vous? Je vais très bien, merci, dit Annie, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me suis cachée, dit Annie. Je gardais mes oreilles grandes ouvertes, mais moi-même je restais cachée, mais je vais très bien, dit Annie. Donc j'ai une question. Donc ça concerne le Bodhisattva Avatara. Donc j'ai écrit ma question, c'est l'une des stances sur l'échange, donc de l'ojong, entre soi-même et autrui. C'est le vers dans lequel Shantideva et vous parlez de prendre les fautes sur soi et de ne pas les mettre sur les autres et quelque part de se confesser. Et je vais répéter ce que vous avez dit, et peut-être vous pourrez commenter. Je souhaite que les autres deviennent libres de leurs fautes et des conséquences. En fait, en gros, je reconnais tout ce que j'ai fait de mal et je le reconnais envers les Bouddhas. Et alors, vous avez dit, de toute façon, les Bouddhas, ils savent déjà, en fait. Les Bouddhas et les Bodhisattvas connaissent déjà nos fautes. Et je voulais vous demander si vous pouviez, si ça vous dérangerait d'en dire un tout petit peu plus sur ce point. Et en fait, Rinpoche dit oui, ben, en fait, les Bouddhas, ils sont censés être, comment on appelle ça? C'est quoi le mot déjà? Qui sait tout. En fait, je pense que ce que cherche Rinpoche, c'est le mot omniscient. Oui, c'est ça, omniscient. Et donc, évidemment, s'ils sont omniscients, bah, ça veut bien dire qu'ils savent déjà tout. Et c'est à ça que je faisais référence. Mais il ne s'agit pas de savoir s'ils le savent ou pas, c'est pas tant ça la question ici. Le point principal, c'est que. C'est que moi-même, j'essaie de reconnaître les choses négatives comme étant en effet négatives. Et je regrette et je ressens que c'est bien, que c'est pas ça que je devrais faire, que c'est pas comme ça que je devrais faire parce que ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour les autres, ce n'est bon pour personne. Et donc je prends conscience au fond de mon cœur que ça n'est pas quelque chose qui devrait être fait, que je devrais continuer. Et donc quand on dit je confesse, souvent dans les traductions anglaises ou françaises, le mot chaque pas, souvent on le traduit par la confession. Mais en fait, pour ma part, pour autant que je comprends le mot anglais, le mot confession, c'est juste de déclarer, de reconnaître qu'on a fait des actes négatifs, que j'ai fait quelque chose qui est incorrect. Mais en fait, en tibétain, le mot shakpa, il va plus loin que le mot confesser. Il ne consiste pas seulement à déclarer et à accepter et à reconnaître. Il y a dans chaque pas aussi l'idée de se séparer de ses fautes. Un exemple que l'on peut donner pour illustrer ce mot, c'est shinshakpa. Par exemple, une souche, avec une hache, on la fend en plusieurs parties. Et donc c'est ça, chaque pas, en fait, c'est de séparer ces actes de nous. Les choses négatives, quelles que soient les actions erronées qu'on a faites, en fait, on les sort et on les jette quelque part. Chaque pas, c'est ça. Et maintenant, comment faire chaque pas? L'un des éléments les plus importants, D'abord, la première étape, c'est de reconnaître que c'est incorrect, puis ensuite de le regretter, puis ensuite de dire que je m'engageais à ne pas le refaire, et puis ensuite faire des actes positifs qui vont à l'encontre de ça, qui vont dans l'autre sens, dans la direction inverse de cet acte négatif. Une fois que vous avez fait ces choses, alors on peut se dire que voilà, vous avez purifié. Et parce que c'est comme on le sait tous, chaque pas et la purification sont très importantes, dans le sens où il n'y a rien qui ne puisse être purifié. Même si vous avez fait les pires choses, les choses les plus ignominieuses et les plus négatives, vous pourrez toujours les purifier. Et c'est ça l'idée dans le bouddhisme, d'où l'histoire de, comment on l'appelle déjà, celui qui avait tué 999 personnes. Je crois que Rinpoche parle de Angulimala. En tout cas, je pense que c'est une chose très importante du point de vue bouddhiste, c'est que tout peut être purifié. En gros, il n'y a rien qui est... Voilà, une fois que vous l'avez fait, ce sera... Vous ne pourrez plus rien faire à ce propos. Il n'y a rien de tel dans le bouddhisme. Il n'y a aucun acte à propos duquel on ne puisse rien faire. Il n'y a même aucun acte qu'on ne puisse pas entièrement purifier. En fait, l'idée que ils le savent déjà, c'était un peu comme si quelqu'un regardait par-dessus votre épaule, dit Annie, et donc je suis plutôt en paix avec l'idée que c'est une question de responsabilité et que c'est pas quelqu'un qui est là et qui nous regarde par-dessus notre épaule, en fait. Rinpoche dit, non, il faut, encore une fois, il faut que les choses soient très claires. Parfois, même certains bouddhistes, et en particulier les Chinois, ils disent, le Bouddha va vous punir. Le Bouddha ne punit jamais. Le concept de punition, il ne fait pas partie des conceptions bouddhistes. Il n'y a pas de Bouddha qui est là avec un bâton et qui vous punit. Un Bouddha ne peut jamais vous punir. Donc en fait, mais si ils savent, ça n'a pas d'importance. En fait, ça n'a pas d'importance ce qu'ils savent, ce qu'ils savent pas. Vous pouvez de toute façon pas vous cacher, mais même s'ils savent quelque chose, en fait, ça fait aucune différence parce que l'un des hommages au Bouddha, c'est que vous haïssez les actes négatifs, mais vous aimez ceux qui en commettent. Donc c'est l'idée. Ce qui vous punit, ce ne sont pas les Bouddhas qui voient ou qui ne voient pas. Ce qui vous punit, c'est l'action elle-même et le résultat de cette action elle-même. C'est ce résultat qui est votre punition, c'est ça votre punition. Et Annie dit, c'est très clair, merci beaucoup, Rinpoche. Ok, qui est-ce qui est la prochaine question? Bonjour, Rinpoche, ça fait plaisir de vous voir. J'ai juste vu votre email. Merci pour avoir accepté de donner cet enseignement pour la Sangha caribéenne. Je vais l'organiser. On va attendre que Rinchen revienne. Il est allé sur une île voisine. On attendra son retour parce que ce serait bien qu'il soit là également. Et ma question aujourd'hui, Rinpoche, c'est concernant le concept d'enseignant racine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est qu'un enseignement, un lama racine, et est-ce qu'il est possible d'en avoir plusieurs, et est-ce que c'est convenable pour moi, par exemple, de vous voir, vous et Rinchen, comme mes enseignants racines, parce que c'est vous deux qui avez été mes enseignements de longue date, et de vous que j'ai reçu le plus d'enseignements. Donc voilà, merci beaucoup. Ah, donc Rinpoche rigole et il explique. Je pense que les gens parlent trop des enseignements et de l'enseignant racine. Je pense que ça n'est pas si important que ça. Bien sûr qu'un enseignant est important au sens où il faut bien que ce que vous l'appreniez de quelqu'un. Et donc vous apprenez tout ce que vous pouvez, de là où vous pouvez, et vous oubliez cette histoire d'enseignant racine, d'accord? Et vous apprenez de là où vous pouvez, autant que possible, de quiconque. Il ne faut pas se dire, ah oui, ça c'est mon enseignant racine, donc je ne dois apprendre que de lui, ça c'est très mauvais, ça crée plus de dommages que ça ne crée de profit. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Votre enseignant principal, c'est vous-même en fait. En fait, on parle de quatre sortes d'enseignants racines. L'un, c'est l'enseignant racine de la lignée, comme par exemple moi ou Rinchen, qui quelque part voilà, viennent d'une lignée. Et quand bon, voilà, cette personne a appris, et peut-être qu'elle a un peu pratiqué, et ce genre de choses. Et donc ça, c'est l'enseignement de la lignée. Mais en fait, quand vous avez un enseignant d'une lignée, c'est pas que lui qui devient votre enseignant, c'est toute la lignée qui devient votre enseignant. Donc ça, c'est l'enseignant racine de la lignée. Ensuite, il y a l'enseignant racine des livres, les écritures. Tous les enseignements du Bouddha, des grands maîtres, tous ces enseignements sont également vos enseignants racines. Ce sont vos enseignants parce que à travers de la lecture des livres, vous étudiez et vous comprenez. Et puis, votre propre nature de sagesse, ça, c'est votre enseignant principal, c'est votre enseignant ultime. Et c'est ça que vous devez comprendre, que c'est ça votre enseignant, c'est la nature de sagesse. Et enfin, le quatrième enseignant racine, c'est tout. C'est-à-dire que toute chose, toute situation, tout le monde devient votre enseignant. Donc ça, c'est les quatre enseignants racines. Dans le Mudra, on a cette présentation. Dans le Dzogchen, on a cette présentation. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez m'accepter moi comme votre enseignant racine ou votre enseignement fruit, ou votre enseignement branche, ou ce que vous voulez, ou Rinchen aussi, ou n'importe qui d'autre. Mais en fait, je pense que ça n'est pas si important. Merci Rinpoche, c'est très beau, parce que, en quelque sorte, j'ai jamais vraiment posé cette question. C'est comme si je l'avais un peu perçue, comme par exemple Gilgo Kensé Rinpoche, le Dalai Lama, et d'autres. Et tous les enseignants, tous ces enseignements sont vos enseignants racines, dit Rinpoche, oui. Et en fait, oui, elle dit qu'elle a reçu beaucoup d'enseignements de beaucoup d'enseignants. Et Rinpoche lui dit, oui, vous devriez apprendre de tout le monde. C'est très beau, merci beaucoup, dit la personne. Puis donc on a Marilena. Oui, Rinpoche, bonsoir, bon après-midi. Ma question concerne la famille, parce que dans le Bodhisharya Avatara, vous avez parlé que dans une bonne famille, chacun prend soin des autres. Et alors, on peut créer une bonne société. Et ma famille n'est pas vraiment une bonne famille, c'est plutôt une mauvaise famille. Quand j'étais jeune, j'ai pris la fuite parce qu'il y avait trop de conflits et trop de perturbations. Puis, je suis bouddhiste, maintenant ma famille est catholique. Et grâce aux enseignements bouddhistes, je m'améliore et j'arrive à être plus proche d'eux. Et j'ai une très forte envie de vivre auprès d'eux. Ma mère devient âgée. J'avais pris l'habitude de rendre visite à ma mère une fois par mois. Pour le Covid, je ne pouvais plus. Et le Brexit aussi a compliqué les choses. En fait, je comprends pas parce qu'elle dit que quand elle veut aller les voir, ils lui disent non, ne viens pas. Et quand elle dit qu'elle veut pas y aller, ils disent de venir. Mais je suis pas sûre d'avoir compris. Je les aime, mais l'attachement est très perturbant. Ça me donne de la panique et de la douleur, je crois avoir compris. Rinpoche dit, je pense que c'est très bien. Aimez-les. Et sans trop vous y attacher, parce que plus vous allez être attaché, plus vous aurez de problèmes. Et puis tout le reste va venir, l'aversion, les soucis, tout va arriver. Donc je pense que c'est une bonne chose que votre famille soit là, soit présente. Vous avez passé du temps ensemble quand vous avez grandi. Et donc, je suis sûre que tous les membres de votre famille vous aiment d'une manière ou d'une autre. Et en Occident, c'est un peu devenu une partie de la culture que la famille ne reste pas réunie et que chacun suive sa route. Et donc, c'est OK que ça se passe ainsi. Mais quand vous vous réunissez, il n'y a pas besoin de se quereller. Bien sûr, il peut y avoir des opinions, des idées différentes dans la famille, toutes sortes de choses différentes, mais je pense que, il n'est pas nécessaire de s'opposer à cela, de tuer les différences. On peut laisser les différences d'opinion et d'idées être. Et comme vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans toutes ces choses, dans tous ces conflits. Et je pense que c'est très bien, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et donc, peut-être que c'est mieux que vous restiez un peu loin et que vous y alliez quand vous pouvez, et alors ils seront contents de vous voir. Il vaut peut-être mieux ça que d'être trop ensemble et d'avoir trop de problèmes et de querelles et de désagréments, de désaccords. Peut-être qu'il y a un peu de sagesse à garder un peu de distance. Si vous pouvez être ensemble et vivre très cordialement ensemble, alors c'est une bonne chose. Mais si ça n'est pas possible, alors il vaut mieux probablement que vous ne soyez pas trop souvent ensemble. Mais que quand vous voyez, ce soit agréable, que vous vous aidiez les uns les autres du mieux que vous pouvez, c'est bien. C'est comme ça que ça devrait se passer. Merci, dit la personne. Une chose qui demeure, c'est que ma mère est très âgée. Peut-être qu'elle va mourir, elle mourra, et je ne serai pas présente pour elle, alors qu'elle continue de me le demander, et ça me rend très triste. Et Rinpoche dit, je pense que c'est pas un problème, parce que même si vous êtes près d'elle, qu'est-ce que vous pourrez faire? vous y allez quand vous pouvez, en particulier maintenant, tant qu'elle n'est pas trop malade, dans une trop mauvaise situation. Alors, vous passez du temps avec elle quand vous le pouvez, et puis quand vous devez partir, vous partez. Et puis, bah, si elle part, si elle meurt pendant que vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Je pense pas que ce soit nécessaire que vous soyez présente au moment même où elle va mourir. Je pense pas que ce soit nécessaire. Vous pouvez toujours l'appeler. Tout ce qui est en votre pouvoir, et ben vous pouvez le faire même de loin. Et si c'est une situation dans laquelle vous pouvez y aller, et ben allez-y. Mais y aller que pour une courte période de temps, dit la personne. Et Rinpoche dit oui, il n'y a pas de problème avec ça en fait. Je vais m'en tenir à cela et essayer. Parce que dans les enseignements, vous avez dit. Dans les enseignements de Shantideva, vous avez dit. Vous disiez qu'on ne devait pas se protéger soi-même, mais protéger les autres. En fait, c'est pas ça, dit Rinpoche. Vous devriez protéger les autres encore plus que vous. Ça, c'est l'idée. Bien sûr que vous devriez vous protéger si vous avez des problèmes. Mais en gros, vous devriez vous sentir concerné par la protection des autres encore plus que par la vôtre. C'est ça toute l'idée. C'est pas, il s'agit pas de dire que vous devriez pas prendre du tout soin de vous. C'est pas ça l'idée. Ok, merci. Donc, la question suivante, elle est de Steve. Tachidele, dit Steve. Comment allez-vous, dit Rinpoche? Je vais bien. Je suis sous les tropiques à nouveau, je crois qu'il a dit. Vous allez dans les endroits chauds l'été et dans les endroits froids l'hiver, c'est ça? Quand vous parlez d'auto-libération, en fait, je suis au point de ma pratique, l'apparence et l'esprit est vide, et que j'interprète comme vos instructions sur méditer sur la conscience et pas être conscient d'eux. Je crois que ça vient du texte de Gampopa duquel vous avez parlé il y a quelques années. Cette présence spontanée, ça me fait penser à la conscience. Et on m'a dit que pour les trois premiers points, on peut faire semblant jusqu'à ce qu'on y soit, alors que le quatrième, la présence spontanée s'auto-libère et ça doit se produire en soi-même. Est-ce qu'il y a une façon de faciliter cette chose? Est-ce qu'il y a une attitude, une pratique? Est-ce que c'est le fait de faire des sessions courtes ou longues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire que cette quatrième chose, cette présence spontanée, se produise plus facilement? Je pense que quand on parle d'auto-libération, c'est pas tant pendant les sessions de méditation. En fait, on ne parle pas de ça. Je pense que ce à quoi on fait référence, en fait, le problème principal, Le problème principal, c'est notre perception. Notre perception. C'est-à-dire notre façon de voir, notre façon dont, la façon dont nous nous saisissons des choses, la façon dont nous les appréhendons, la façon dont nous concevons les choses. C'est à ce niveau-là que réside l'ignorance. Même quand on parle de nos voiles, de nos souillures, des kleshas, on dit que ça vient de l'ignorance, et ce que ça veut dire, c'est que ça vient de notre façon incorrecte de voir et de percevoir les choses. Et donc, si on peut, d'une manière ou d'une autre, laisser s'en aller cette perception négative ou incorrecte, et si on arrive à voir les choses clairement, alors il n'y a rien d'autre que ça qui nous lie, en fait. Il n'y a rien de mal à propos de rien. Il n'y a rien de mal à rien. La seule chose qui, quelque part, ne va pas, c'est comment nous saisissons, nous concevons, comment nous percevons, comment nous réagissons. Et donc, pour cela, si nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, par la compréhension, par la méditation, par notre propre expérience, si nous pouvons clarifier, dissiper cette méprise, nous dégager de ce malentendu, de cette erreur que nous faisons, alors nous sommes auto-libérés. Ça veut dire que on n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit parce que ce sera déjà OK. On sera déjà libéré. C'est ça qu'on appelle l'auto-libération parce que en fait, il n'y a rien, il ne demeure rien qu'il faudrait nettoyer, par exemple mettre du savon, nettoyer avec du détergent et tout ça. C'est votre façon de voir les choses, votre façon d'y réagir, votre perception, elle est modifiée, elle est clarifiée. Et quand ça, c'est fait, et ben voilà, il n'y a plus la notion de négatif. Il n'y a plus rien qui serait négatif. Avant, on a parlé de purification, mais en fait, à ce stade-là, en un sens, il n'y a rien à purifier. Ce que l'on entend par purifier, ça veut juste dire modifier, transformer notre propre perception afin que nous percevions les choses telles qu'elles sont. En fait, c'est en ça que consiste la purification. Et donc, on dit que c'est auto-libéré parce que il n'y a plus rien à purifier, il n'y a plus personne à purifier, il n'y a plus rien d'autre à faire. Dès lors que notre perception est changée, c'est déjà fait. Et c'est pourquoi on parle d'auto-libération. Donc, est-ce que le processus serait de constamment questionner, remettre en question ce que nous percevons? Oui, dit Rinpoché, mais ça, c'est la première chose, dit Rinpoché. En fait, Rinpoché dit que ça réside encore au niveau intellectuel. Mais il nous faut aller au-delà de ce niveau-là. Parce que le niveau intellectuel, quelle qu'en soit la qualité, ça reste des idées. Ça reste des concepts. Même un concept qui est juste, c'est quand même encore un concept. Et donc, quelque part, c'est faux. Ou en tout cas, c'est toujours pas du domaine du réel, c'est toujours du domaine des concepts. Et donc, les concepts, quel que soit leur degré de raffinement, sont à dépasser. Il faut aller au-delà des concepts, et c'est pourquoi la méditation devient importante. Et quand on parle de méditation, On ne veut pas seulement dire essayer de rester calme et paisible, on ne parle pas que de ça. En fait, on parle d'une méditation. C'est pourquoi on parle de conscience pure, de conscience nue. Parfois, les gens parlent de la conscience qui est au-delà de l'esprit. Dans le Dzogchen, ils essaient de faire une distinction entre l'esprit et Rigpa. Donc, l'esprit, dans ce sens-là, c'est notre esprit conceptuel. Et Rigpa, c'est quand notre conscience peut être libre même de cet esprit conceptuel. Ça, c'est Rigpa. Et donc, pour en arriver là, on doit aller un peu au-delà de l'intellect. C'est pourquoi on parle de juste être, d'être complètement conscient de ne produire aucune altération. C'est pourquoi, et c'est en fait ces instructions-là, c'est précisément celles qui permettent d'aller au-delà de l'intellect. Mon sentiment, c'est que Rinpoche dit oui, on peut dire que c'est un espace libre de pensée, que c'est là avant les pensées, mais en un sens, même pendant les pensées, vous devriez être en mesure de l'expérimenter. Vous pouvez, c'est, il ne s'agit pas de dire ok, maintenant je quitte mes pensées et je vais dans cet espace, parce que cet espace, il est présent même quand il y a des pensées, et donc vous devriez pouvoir l'expérimenter même en présence des pensées. Donc Steve dit ok, je vais continuer d'essayer, merci beaucoup. Bonjour Christian. Et il faut ouvrir le micro, dit Rinpoche. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ok, ma connexion n'est pas très bonne pour le moment, j'espère qu'elle tiendra le coup. Rinpoche, je suis heureuse de vous voir. J'ai une question. Si ce virus était arrivé 20 ans avant, on n'aurait pas eu Zoom. Et beaucoup d'enseignements maintenant passent par Zoom. Et avant, on avait la transmission par les livres ou la transmission orale. Et maintenant, et en fait, qu'est-ce qui change? Le matin, je me lève, je me dis, tiens, est-ce que j'ai envie de voir le Dalai Lama, le Karmapa? Est-ce que j'ai envie de voir des enseignements de Rinpoche Tulku? Je suis libre. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça change? Avant, les gens avaient à voyager et ils devaient apporter de l'or pour recevoir les enseignements. Et je me demande, est-ce que j'arrive à accorder encore assez de valeur aux enseignements quand ils sont devenus si faciles à recevoir? Est-ce que ça fait pas une différence de rencontrer l'enseignant en vrai plutôt que par Zoom? Donc, est-ce qu'il y a toujours une valeur? Est-ce que j'arrive encore à apprécier ces précieux enseignements, sachant qu'il m'est finalement aussi facile de les recevoir. Rinpoche dit, je pense que c'est exactement pareil. Je ne pense pas que ça soit si différent que ça. Parce que quelle valeur vous accordez aux enseignements? En fait, parfois, les gens, ils ont l'idée que plus on doit surmonter de difficultés, plus on paye, plus on trouvera que la chose a de la valeur. Mais ça, c'est des concepts un peu bon, humains, mais qui peut-être ont leur degré de vérité, mais pour ce qui est de l'enseignement lui-même, pour autant que l'enseignement lui-même soit concerné, ça ne change rien. Parfois, vous essayez d'aller à des enseignements et puis ça vous demande toute une procédure et en un sens, tout ce voyage devient partie intégrante de l'enseignement lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit impossible d'apprendre quand vous recevez un enseignement direct de sa sainteté, le Dalai Lama et le Karmapa par Zoom. Ça veut rien dire et c'est très fabuleux que tout ça soit possible. C'est une très bonne opportunité que tout ça soit possible. Il y a des gens qui pensent que par le Zoom, on ne peut pas recevoir les enseignements, les bénédictions. Et pour moi, le fait de penser ça, ce n'est rien de plus qu'une opinion. Avant, on n'avait pas ça et c'était pas possible. Et maintenant, c'est possible. Dans les temps plus anciens, il y avait beaucoup d'enseignements qui n'étaient pas donnés à plus de 7 ou 50 personnes, mais parce que personne n'aurait même pu les entendre physiquement s'il y avait eu plus que 7 ou 10 ou 50 personnes. En fait, on était obligé d'avoir des salles petites pour que les gens entendent. Ça dépendait vraiment de la voix de l'enseignement, s'ils pouvaient parler fort ou pas. Donc, s'il y avait plus que 30 ou 40 personnes, les gens n'auraient de toute façon même pas entendu l'enseignement, en fait. Et puis, de toute façon, les enseignements, vous les entendez une fois. Et à moins que vous ayez une mémoire fantastique, vous ne pouvez pas tout retenir. Donc, ok, vous recevez quelque chose, bien sûr, vous devez essayer de l'écouter de votre mieux. Et peut-être parfois c'est bien, quand vous savez que vous n'allez le recevoir qu'une fois, vous allez écouter très attentivement, mais de nos jours, même sa sainteté, le Dalai Lama, si vous ne pouvez pas l'écouter aujourd'hui, vous pourrez l'écouter demain. Et vous pouvez l'écouter encore et encore. Et parfois, vous allez penser que vous pourrez de nouveau écouter une seconde fois. Et du coup, vous n'écoutez pas la première fois. Donc tout ça, ça arrive aussi. Et bien sûr, tout a ses bons côtés et ses côtés moins bons. Mais je pense que la technologie a beaucoup de bons côtés et cet aspect-là définitivement en fait partie. Est-ce que vous pensez que à long terme, vous pensez que c'est bien de faire des enseignements hybrides, c'est-à-dire à la fois en présentiel et via Zoom? Et les enseignements du Bouddha, de Nagarjuna, même ceux des enseignants du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle, en fait, on a les écrits, mais on n'a rien d'autre. Maintenant, même pour les maîtres qui sont morts, on peut écouter leurs enseignements comme s'ils étaient encore là. Et ça, le Bouddha l'avait dit, que... Parce que, en fait, les gens lui avaient demandé, maintenant que vous êtes en train de mourir, qui sera votre régent? Et le Bouddha a dit, je n'ai pas besoin de régent, c'est mon enseignement qui sera le régent. Si vous écoutez mon enseignement, ça y sera, en fait. Donc, c'est un peu comme ça. Et maintenant, on peut accéder aux enseignements encore plus facilement. Et d'une manière encore plus authentique. Parce que quand quelque chose est mis par écrit, bien sûr, la plupart des transcriptions sont bonnes, mais Mais on ne sait jamais à quel point c'est fait de manière authentique, par combien de mains c'est passé. Vous savez pas s'il y a des choses qui ne sont pas venues s'insinuer. Donc, je pense que tout ça, c'est très bien. Et bien sûr, il doit y avoir des côtés négatifs aussi. Et oui, c'est vrai que c'est trop facilement accessible. Et c'est vrai que quand quelque chose est facile, trop facilement accessible, les gens ont tendance à ne pas y accorder autant de valeur. Ça arrive aussi. D'accord, Rinpoche, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre? Oui, Rinpoche, bonjour. Mon nom est Fanny, très heureuse de vous rencontrer. J'ai beaucoup appris avec notre Sangha à Washington, D.C. J'ai deux préoccupations. L'une qui... Derrière moi, il y a la calligraphie de Thaisito Rinpoche. J'ai un tatouage de l'autolibération dans mon dos et c'est intéressant que la personne en ait parlé. Et je suis Asherah Bling. Et j'ai beaucoup de gratitude pour vous. Concernant Zoom et ma Sangha à Kansas City, donc je vous écoute et en même temps je suis là-bas, donc à certaines manières je suis dans deux endroits. Ma préoccupation, c'est pas une question, c'est ma préoccupation. Et ça se ramène au lama racine. Quand un samaya a été brisé par un enseignant, que l'on a envers lequel on a eu de la dévotion et auprès duquel on a pris des vœux de refuge. Comment garder de l'espace pour de la gratitude pour l'enseignement tout en ayant conscience de la rupture des samayas. Je comprends. Comment est-ce qu'un individu qui est éveillé peut ignorer que le fait de briser un samaya, notamment avec de l'inconduite sexuelle en Occident, peut ne pas perturber la sangha? En gros, si un esprit est éveillé, il ne peut pas ignorer qu'un tel acte va créer de la dissension dans la sangha. Parce que c'est une découverte, ça a été ancien dans beaucoup de traditions. Et j'essaie de réconcilier les deux. La question est vraiment compliquée et je ne comprends pas tout. Je comprends que les Rinpoché ont été en retraite très tôt, qu'ils n'ont pas été exposés à ce genre de psychologie occidentale, mais J'étais un peu réticente à poser cette question, mais ça me cause vraiment de la détresse. Donc qu'est-ce que vous en dites? Ce que je dis en général, c'est la chose suivante. Je dis que j'ai voyagé de par le monde, tout particulièrement en Occident. Et je ne sais pas si on peut dire que j'ai enseigné, mais en tout cas j'ai discuté du Dharma pendant plus de 30 ans maintenant. Et j'ai rencontré beaucoup de gens de plein de pays différents, plein de sortes de gens différents. Et ils m'ont posé toutes sortes de questions. Et parfois des questions très qui me mettaient vraiment à rude épreuve. Mais jamais, je n'ai jamais ressenti des difficultés à y répondre. Mais quand les gens me pose des questions sur les actions des lamas, ce que les lamas ont fait, pourquoi ils l'ont fait et tout ça. Et j'ai toujours dit que je n'avais pas de réponse à apporter parce que je ne peux pas répondre. En fait, il ne s'agit pas, dit la personne, de porter préjudice à un enseignement qui m'a donné refuge. En fait, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est éveillé pourrait ne pas avoir la clairvoyance de voir les conséquences possibles de leurs actions, même si leurs intentions étaient bonnes, que ça puisse mener à ce que des gens, des femmes avec un certain profil, ça leur fasse du mal. En fait, comment quelqu'un pourrait être éveillé et ne pas savoir que ça pourrait porter préjudice. De même que le prince Philippe était le compagnon de la reine Élisabeth, paix à son âme, il nous a éduqués à cela. Comme on a dit, Zoom change les choses, ça rend les choses plus accessibles. Et je ne veux pas penser d'une manière dualiste, mais quand quelqu'un vient sur un chemin qui a un sens, nous sommes en recherche, nous voulons recevoir des enseignements qui sont formidables du Bouddha, qui vont nous aider à transformer notre propre esprit pour bénéficier aux autres, n'est-ce pas? C'est le vœu que nous faisons. Et alors, être les témoins le fait de voir quelque chose d'aussi humain chez quelqu'un qui devrait avoir tant de clairvoyance, ça crée tellement. Donc, je ne voudrais pas tellement commenter sur l'action du lama, mais plutôt, bien sûr que je veux continuer mon chemin, je veux méditer, mais ça reste en moi et je suis toujours en contact avec les gens qui ont été blessés. Ce que le Bouddha a dit est, je pense, très important. Ne pas sans se reposer sur les personnalités, mais s'en remettre au Dharma. Et moi, en général, je pense que c'est la chose la plus importante, en particulier maintenant, à cette époque et dans cette situation. Nous étudions le Dharma et nous devrions essayer de comprendre à partir de ça comment nous être bénéfique à nous-mêmes, comment être bénéfique aux autres et comment travailler sur nous-mêmes. Et c'est ça notre travail. Et nous étudions avec des lamas, peut-être du Tibet, peut-être d'autres pays. Et certains de ces lamas peut-être qu'ils vivent selon le dharma, peut-être que d'autres ne vivent pas en accord avec le dharma, ou il y a des gens qui vivent très en accord avec le dharma et qui sont très réalisés et qui font des choses pour bénéficier à certaines personnes de certaines façons. Et on ne peut pas, on n'est pas à même totalement de juger les actions de tout le monde. Et aussi, une chose qui est très importante, je pense, vous avez dit que ces gens sont éveillés. Et qui sait s'ils sont éveillés ou s'ils ne le sont pas? Quelqu'un, n'importe qui vient avec telle robe et qu'on appelle Lama ou Tulku ou Rinpoche ou Kenpo, les personnes ne sont pas nécessairement éveillées. À quel point elles sont éveillées, c'est une autre question et on n'en sait jamais trop rien. Les gens disent qu'ils sont éveillés. Et parfois ils le disent pas, parfois c'est même c'est pas eux qui le disent, c'est les autres qui disent ah il doit être éveillé, mais eux-mêmes ne revendiquent pas le titre d'être éveillé, et parfois ils le sont pas. Donc je pense que ce que quelqu'un fait ou ne fait pas, c'est leur affaire, leur responsabilité, et ça a aussi à voir avec les gens, je pense. Parfois, parfois les gens sont trop innocents, trop naïfs. Ils pensent que si vous avez un nom dans lequel il y a Lama ou Tulku ou Rinpoche, ils pensent que cette personne est éveillée et pensent que tout ce que cette personne fait est bien. Mais chaque personne a le droit, et le Bouddha l'a répété encore et encore et encore au début de tous les textes, de toutes ses instructions. Il a dit que vous devez examiner votre enseignant. Vous n'avez jamais à examiner, à accepter quelqu'un comme votre enseignant sans l'avoir examiné. Vous devriez l'examiner. Et si vous pensez que cet enseignant fait quelque chose qui n'est pas correct et qui ne vous plaît pas, vous pourriez très facilement dire je ne souhaite pas m'impliquer dans cette relation. Et ça, je pense que nous devrions le rendre très clair, et nous devrions rendre cela aussi largement connu que possible, le fait qu'on n'a pas à faire tout ce qu'un lama nous demande. Par exemple, dans mon centre, à Berlin, ils ont invité un lama, et ils lui ont demandé: qu'est-ce que vous voulez? On voudrait vous offrir quelque chose. Et il a dit: je voudrais une voiture allemande. Et ils m'ont appelé et ils m'ont dit: oui, tel lama veut une voiture allemande, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et je leur ai demandé: pourquoi vous lui avez demandé ce qu'il voulait? Vous n'avez qu'à offrir ce que vous voulez. Mais on lui a déjà demandé, ils ont répondu. Alors je leur ai dit: offrez-lui un jouet. Et alors ils ont fait ça, une voiture en jouet. Donc c'est un peu comme ça. C'est pourquoi quelqu'un, Taisitu Rinpoche, dit qu'on lui a offert une voiture. Oui, ça me rappelle une histoire de 2013. Si bien sûr, si on demande à quelqu'un, je vous offre ce que vous voulez, bah oui, on s'expose au risque que la personne dise en effet ce qu'elle veut. Je sais pas s'il l'a vraiment fait, mais voilà. Il faut que tout le monde, en tout cas, comprenne que si un lama veut quelque chose, vous n'avez pas à le faire. Ça n'est pas comme ça, en fait. Il n'est pas vrai de dire que tout ce qu'un lama dit, on doit le faire. Donc, c'est quelque chose que les gens doivent vraiment savoir. En fait, peut-être que c'est ça qu'on devrait partager parce que, par exemple, pour les gens qui vivent dans ces communautés, je pense que les gens qui étaient proches, qui vivaient vraiment dans ces communautés, ne le savaient pas eux-mêmes tout ça. Je pense que vous diriez que cette personne, elle est éveillée. Je ne sais pas si vous, c'était un contemporain à vous, mais ça m'a réveillé à ce que vous avez dit, la transparence, avoir sa propre voix. Mais il y a quand même une responsabilité parce que. En fait, on arrive avec tellement de questions, tellement de vulnérabilité, on est dans un tel état de recherche que il y a une responsabilité, un amour et une compassion de remarquer cela, que l'enseignant soit un professeur, un médecin, un rinpoché et un disciple. En fait, c'est pas vraiment une hiérarchie, mais je trouve qu'il y a une responsabilité, un respect de dire oui, vous êtes un Bouddha. Et c'est. On ne doit pas mettre les gens sur un piédestal et on l'apprend tout au long de notre chemin. En tout cas, merci pour avoir répondu à cela. C'était utile. Je ne voulais pas que ça occupe autant d'espace parce que ça me distrayait de mon avancée, en fait. Oui, je pense que c'est comme ça. Et. Je pense que c'est important. Les lamas, les enseignants, comment ils se comportent est quelque chose de très important pour le futur du Dharma. Le bouddhisme, pour ce qui est des enseignements eux-mêmes, je pense qu'il a la capacité, qu'il a le potentiel à être extrêmement utile et bénéfique à beaucoup d'êtres humains, et tout particulièrement maintenant et dans l'avenir. Maintenant, est-ce que ce potentiel à faire du bien aux êtres va pouvoir se réaliser ou pas? Est-ce que cette valeur, cette utilité des enseignements pourra finalement toucher les êtres? Pourra leur être bénéfique, pourra être acceptable et utile pour eux dans le futur, dans le monde ou pas. Ça va dépendre de comment les enseignements agissent maintenant. Ça dépendra pas tant de ce qu'ils disent, mais ça dépendra de ce qu'ils font. Parce que comment ces personnes qu'on appelle des enseignants agissent, ça dépend d'eux et pas. Et pas du dharma. Donc, si ils brisent leurs vœux, ils brisent leurs vœux, qu'on les appelle des lamas, des rinpoché, des kenpo, que ce soit le lama le plus élevé ou le plus bas, en fait, ils brisent ses vœux, donc il n'agit pas vraiment en accord avec le dharma, mais ça ne concerne que lui, ça ne concerne pas le dharma. Mais les gens ne le voient pas comme ça. Les gens voient que les lamas bouddhistes, les lamas tibétains font telle et telle chose. Si moi, par exemple, je me comporte très mal, en fait, il ne s'agit que de moi me comportant très mal, mais c'est pas ça que les gens vont dire. Ils vont dire les lamas tibétains se comportent mal. Donc, c'est vraiment très important pour les lamas de faire de leur mieux, de s'efforcer d'agir correctement. Mais dans les temps plus anciens, même pas si anciens que ça, quand le bouddhisme tibétain et le bouddhisme en général est venu en Occident, pendant très longtemps, on n'a pas abordé la question de l'éthique. Parce que ça n'intéressait personne. Quand je suis venu en Occident pour la première fois, personne ne voulait écouter sur la discipline. Tout le monde voulait entendre parler de méditation. Ça n'est que maintenant que les gens commencent à s'intéresser un peu à l'éthique parce que toutes ces choses sont arrivées. Avant ça, il n'y avait rien. Si on parlait, on disait le moindre mot sur la discipline, les gens disaient non, mais ça, en fait, ils se levaient, ils s'en allaient en fait. Ils disaient juste que c'était comme comme le christianisme. De faire, ne pas faire, et, ça ne nous intéresse pas en fait. Mais c'est pourtant une partie très importante du dharma, c'est les trois entraînements, l'entraînement à la discipline, à l'éthique, l'entraînement à la méditation et l'entraînement à la sagesse. C'est les trois entraînements du dharma et on ne peut pas avoir le moindre dharma s'il manque ne serait-ce que l'un de ces entraînements. Donc l'entraînement à l'éthique ne commence que maintenant et à cause quelque part de ce qui s'est passé. Et donc je trouve que c'est très important. Je veux laisser la place à quelqu'un d'autre s'ils ont une question. Donc je veux juste vous remercier. Et dire que de dire que la beauté du dharma, combien de fois ça m'a sauvé la vie. Beaucoup de choses m'ont été utiles, le fait qu'il n'y ait pas de normes, le fait que les gens ne soient pas définis une fois pour toutes, mais qu'on puisse accueillir les circonstances fraîches. Oui, j'ai vu Rinpoché marcher en conscience à Bodh Gaya et ne pas écraser un insecte et je me suis demandé comment je pouvais faire ça. Et donc je suis reconnaissant pour les instructions et je suis décidé à travailler là-dessus et à être flexible et malléable. Et aussi de poser des questions, d'investiguer, d'avoir par le dharma la force et le courage de poser des questions, d'oser vous poser des questions. Et de pas pour vous mettre quelqu'un qui écoute mal à l'aise, mais comme en tant qu'enseignement. Et oui, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème et n'importe qui peut me poser n'importe quelle question. Certaines questions, je peux y répondre, d'autres, je ne peux pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne serai pas capable forcément d'avoir la bonne réponse à toutes les questions. Mais j'ai une opinion sur pas mal de choses. Donc voilà, donc merci beaucoup. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, Dhirin Poche. Donc merci beaucoup. Le meilleur à chacun. Je vous souhaite une bonne semaine et merci beaucoup.